Chapitre 49.
Je ne sens rien du tout, dit Richard.
Assis en tailleur sur un carré de pierre blanche encastré dans le cercle de pelouse qui entourait un grand rectangle de sable de sorcier, il tourna la tête vers Nietzsche. Debout derrière lui, les bras croisés, elle le regardait dessiner des sortilèges.
Pourquoi voudrais-tu sentir quelque chose? Tu es en train de tracer des sorts, pas de faire l'amour à une femme.
Eh bien, je pensais... Ah, je ne sais pas trop.
Tu espérais te pâmer d'extase?
Non, mais je m'attendais à avoir un rapport plus direct avec mon don, ou au moins à éprouver une certaine fièvre mystique, enfin quelque chose dans ce genre.
Tout en étudiant les dernières lignes dessinées par Richard, l'ancienne maîtresse de la mort soupira avant de répondre.
Certaines personnes aiment ajouter un élément affectif quand elles tracent des sortilèges. Sentir leur cœur battre la chamade et leur estomac se nouer, sans parler de la chair de poule, leur donne l'impression de vivre une expérience hors du commun. Mais c'est parfaitement superflu. Du théâtre, rien de plus. L'idée préconçue qu'il faut être échevelé et grogner comme une bête quand on fait ce genre de choses.
Nietzsche prit une expression à la fois moqueuse et tentatrice.
Tu veux que je te montre? Voilà qui rendrait sûrement plus amusante une longue nuit de travail de fourmi.
Richard comprit que son ami essayait de lui apprendre quelque chose. La provocation étant une des méthodes favorites de Z, il ne se sentit pas le moins du monde dépaysé. Très curieusement, Nietzsche était réfractaire à toute accommodation de la magie à la sauce fantasmagorique. Pour elle, il s'agissait d'un domaine où la logique primait et elle rejetait toute forme de superstition. Avec son histoire de fièvre mystique, Richard lui avait tapé sur les nerfs et elle ne le lui laisserait pas oublier de sitôt.
« Tu sais que certains sorciers aiment être nus quand ils dessinent des sorts ?» insista-t-elle.
« Je demande grâce, » soupira Richard. « Au fond, je n'ai nul besoin de grogner, d'avoir de la tachycardie ou de sentir ma peau picoter quand je trace des runes. Quant à être tout nu, par le temps qu'il fait,
je me disais bien que tu verrais les choses ainsi. Du coup, je ne t'ai jamais proposé de pimenter la sauce. »
Elle désigna le diagramme complexe dans le sable de sorcier.
« Que tu sois tout excité ou non, ton don fait ce qu'il y a à faire. Un sortilège remplira imparablement sa fonction si tu l'as doté des éléments requis, ajoutés au bon moment et dans l'ordre souhaitable. Cela dit, sache qu'il existe certains sorts que tu devras dessiner en étant nu comme un ver. »
Richard savait pertinemment de quoi voulait parler Nietzsche et il n'avait aucune envie de s'apesantir sur le sujet. Inclinant la tête, la magicienne étudia attentivement les deux lignes parallèles qu'il était en train de dessiner. Un travail assez délicat puisqu'il s'agissait en réalité de représenter un double angle droit.
« C'est comme faire du pain, » souffla Nietzsche. « Si tu ajoutes les bons ingrédients au moment idoine, la pâte réagit de la façon prévue. Les convulsions et les gémissements ne l'aident pas à lever ni à cuire correctement. »
« C'est ça, oui. »
marmonna Richard en ajoutant une double arche à ses angles droits jumeaux.
« Le travail d'un boulanger, rien de plus, sauf que la moindre erreur risque d'être mortelle. C'est toute la beauté de la magie, non? Enfin, on peut voir les choses comme ça. »
Nietzsche suivit des yeux la courbe d'une précision parfaite que traçait Richard dans le sable. Les sortilèges que le sourcier dessinait provenaient du grimoire que Burdine était venu leur apporter alors qu'ils étaient dans la tombe de Panisral. L'ouvrage contenait certains diagrammes qu'il suffisait de recopier. Pour le reste, des descriptions très alambiquées, l'expérience de la magicienne s'était révélée très précieuse. Sans son talent hors du commun, il aurait été impossible d'avancer si vite dans un travail de recréation si méticuleux et si complexe. Découvrant que le grimoire ne contenait pas toutes les illustrations dont il avait besoin, Richard s'était ouvertement inquiété. Nietzsche ne risquait-elle pas de se tromper lorsqu'elle reconstituait les diagrammes manquants? Avec une patience louable, la magicienne avait rassuré le sourcier. S'il avait une multitude de raisons de crever d'angoisse, celle-là n'avait pas de place sur la liste. Pour Richard, ces exercices étaient une sorte de répétition générale. Une façon de mettre en pratique toutes les connaissances qu'il avait glanées et dont dépendrait sa survie lorsqu'il s'aventurait dans le royaume des morts.
Pour le moment, ils ne disposaient pas des boîtes. Mais, une fois qu'elles étaient remises dans le jeu, certaines procédures préliminaires pouvaient être exécutées alors qu'on ne les possédait pas. Sachant à quel point ces préparatifs étaient dangereux, Richard s'en serait bien passé, mais il n'avait pas le choix. S'il voulait récupérer la Calanne qu'il aimait et remplir ses autres missions, il devait s'acquitter de certaines tâches, qu'elles lui plaisent ou non. Par bonheur, son antique mentor, le premier sorcier Baracus, lui avait laissé des indices précieux. De nouveau en possession de son don, Richard avait intérêt à retrouver au plus vite l'ouvrage que lui avait légué le légendaire sorcier de guerre, car c'était le moment de prendre connaissance des secrets de son lointain prédécesseur. Comme la tenue noire qui avait partiellement appartenu à Baracus, l'ouvrage était caché dans le château de Tamarang, non loin des étendues hostiles du pays sauvage. Le dernier endroit où Richard avait vu Six, juste avant que le général Karg le capture et lui propose de devenir joueur de Jala. Alors qu'il continuait à dessiner, Richard songea qu'il avait hâte que l'empereur commence à perdre le sommeil, à se sentir nerveux et à avoir du mal à se concentrer. Jagang affichait depuis trop longtemps une confiance en lui-même et une arrogance que le sorcier ne supportait plus. Désormais, ce serait à son tour d'avoir des cauchemars. Entendant du bruit au-dessus de sa tête, Richard leva les yeux et vit que Loki, le corbeau de Gillian, était perché sur la verrière du plafond. Volant très haut dans le ciel, il avait suivi son amie de toujours depuis qu'elle était prisonnière de Jagang. Le ventre bien plein grâce aux montagnes d'ordures qui se dressaient un peu partout dans le camp, et il semblait très serein, comme si la fillette avait simplement pris de longues vacances quelque peu inhabituelles. Gillian savait très bien que l'oiseau était là. Craignant qu'un soldat décide de le transpercer d'une flèche, elle s'était bien gardée d'en parler. Mais le corbeau, habitué à se méfier de la plupart des êtres humains, filait à tire-d'aile dès que quelqu'un le remarquait. Deux ou trois fois, alors qu'elle sortait du pavillon de Jagang, Gillian avait vu son cher corbeau faire des acrobaties aériennes pour la saluer et la distraire. Terrorisée depuis qu'elle était tombée entre les griffes de l'empereur, la fillette n'avait même pas esquissé un sourire. Alors qu'il commençait à neiger, l'oiseau d'un noir de jais était quasiment invisible sur un fond de ciel noir comme de l'encre. Par moments, Richard ne voyait plus que son bec et ses yeux, de quoi s'imaginer qu'un fantôme les épiait, Nietzsche et lui. De temps en temps, le corbeau inclinait la tête comme s'il entendait lui aussi évaluer le travail du sorcier. Croassant et battant des ailes, il encourageait le sorcier débutant à accélérer le rythme. Loki attendait impatiemment de jouer son rôle.
« Tu es prête ?» demanda Richard en dessinant une ultime ligne dans le sable.
Gillian acquiesça nerveusement. Cela faisait si longtemps qu'elle attendait ce moment. Assise sur le sable blanc, au centre exact du diagramme dessiné par Richard, elle prenait très au sérieux toute cette affaire. Si son grand-père l'avait choisie et formée, c'était pour qu'elle fasse ce que lui demandait à présent Richard. Elle était la prêtresse des ossements, capable de transmettre des rêves pour défendre son peuple.
À la lumière des torches qui éclairaient la scène, les bandes noires peintes sur le visage de l'enfant avaient quelque chose de terrifiant. Pourtant, ces camouflages étaient exclusivement destinés à la protéger des esprits du mal. La prêtresse des ossements était désormais au service du seigneur Ral, qui allait l'aider à transmettre des rêves à leurs ennemis communs. Dans un très lointain passé, les ancêtres de la fillette et ceux de Richard avaient déjà œuvré ensemble afin de se protéger mutuellement. Mais il ne s'agissait plus de transmettre des rêves, car Richard voulait envoyer des cauchemars aux bouchers de l'ordre. Le peuple de Gillian était originaire de Casca. Son grand-père, le devin en exercice, était le dépositaire et le garant d'un fabuleux passé et d'un inestimable trésor de connaissances. Un jour, Gillian prendrait sa place et recevrait tout cela en héritage. Pensant que s'installer sur des terres hostiles dont personne ne voudrait leur permettrait d'éviter les conflits, les ancêtres de Gillian se défendaient en projetant des rêves et des illusions. À l'époque des Grandes Guerres, ils avaient utilisé cette arme pour repousser les envahisseurs venus de l'Ancien Monde. Hélas, ils avaient échoué, se faisant pratiquement exterminer. Richard et Nietzsche avaient attentivement écouté tout ce que Gillian pouvait leur dire au sujet de ces temps immémoriaux. Avec l'aide du livre et de ses propres connaissances de l'histoire,
Richard avait pu reconstituer les événements. Presque tous les ancêtres de Gillian avaient péri. Quelques-uns avaient cependant été capturés et livrés aux sorciers de l'Ancien Monde. Utilisant cette matière première, ces sorciers avaient créé des armes humaines. Programmées pour envahir les rêves, pas pour les transmettre, ces créatures magiques avaient constitué une cinquième colonne particulièrement efficace. Jagang était le dernier survivant de ces hommes capables de marcher dans les rêves. Héritier des armes vivantes créées 3000 ans plus tôt, il avait repris le flambeau sacré de la guerre. Sa naissance avait été possible parce qu'un espion de l'Ancien Monde, au temps du premier conflit, avait pu s'introduire dans le Temple des Vents et manipuler une magie interdite. À distance, Barakus avait trouvé une parade. La venue au monde de Richard, avec les deux variantes de la magie, afin qu'il puisse mieux parer la menace. Gillian et Jagang avaient donc des ancêtres communs. Devenue la prêtresse des ossements, la fillette allait utiliser son pouvoir pour repousser les envahisseurs. Mais Richard avait introduit une variante dans le protocole. Par le passé, les ancêtres de Gillian avaient échoué. Leur rêve n'avait pas suffi à éloigner d'eux les hordes de l'Ancien Monde. Le sourcier avait son idée sur la raison de ce désastre. Les rêves. Oui, il l'entendait transmettre des cauchemars.
« Tu as bien mémorisé les mauvais songes ?» demanda-t-il à Gillian.
La fillette ouvrit ses yeux couleur de cuivre, deux petits soleils brillants sur le fond obscur d'une bande noire.
« Oui, petit Perral, je ne faisais pas beaucoup de cauchemars avant l'arrivée des envahisseurs. Aujourd'hui, je sais trop bien ce que c'est. »
Richard se pencha en avant et dessina une étoile devant la courageuse fillette.
« Un jour, j'espère que tu pourras oublier ce qu'est un cauchemar. Mais aujourd'hui, je veux que tu y penses très fort. »«
Je vais le faire, Seigneur Hall. Mais une petite fille peut-elle transmettre des cauchemars à tant d'hommes ?»«
Ces soudards sont venus pour détruire tout ce que tu chéris. »« Génère les cauchemars, et Loki ira les porter aux hommes endormis dans le camp. »
Nietzsche vint s'agenouiller à côté du sourcier.
« Gillian. » Ne pense pas au nombre d'hommes qu'il y a dans le camp. C'est sans importance, crois-moi. Loki transportera les cauchemars et il les laissera tomber sur nos ennemis comme une pluie glacée. Tous les soudards ne seront pas touchés, bien sûr, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que beaucoup d'entre eux soient affectés.
La magicienne désigna les sortilèges autour de l'enfant.
Le pouvoir vient de là, pas de toi. Ce sont les sortilèges, pas toi, qui instilleront les cauchemars dans l'esprit débouché de l'ordre. « Ta mission, c'est de penser aux mauvais rêves. Regarde ce dessin devant toi. Cette composante du sort multipliera à l'infini les cauchemars que tu auras générés. « N'est-ce pas au-delà de mes forces ?»
demanda timidement Gillian. Richard sourit et tapota le bras de la fillette.
« C'est moi qui t'aiderai à les transmettre, n'oublie pas. Prête-moi tes pensées et je te donnerai ma force. »
« Je suis capable de penser à des cauchemars, et tu es sûrement très fort, Seigneur Hall. Quand je vous entends parler tous les deux, je comprends pourquoi j'avais besoin de ton aide, Seigneur, pour transmettre des rêves. La prêtresse des ossements avait besoin d'attendre ton retour parmi nous. »
Une autre chose est essentielle. Quand Loki aura survolé le camp, tu devras l'envoyer se poser sur le pavillon de Jagang. « Nous voulons affecter le plus d'hommes possible, mais le tyran est notre cible prioritaire et j'ai un cauchemar spécial à son service. Donc, quand je te dirai que Loki doit se poser, pense très fort au pavillon de l'Empereur. »
Richard désigna un dessin dans le sable. « Ce sort enverra le corbeau se percher sur le pavillon. Quand je te donnerai le signal, pense à Jagang et le reste se passera tout seul. »
« Je me souviens du pavillon. »
Gillian chercha le regard de Nietzsche.
« Et des scènes de cauchemars qui s'y sont déroulées. »
Sur le toit vitré, Loki battit de nouveau des ailes, impatient de prendre l'air avec sa cargaison de mauvais rêves.